ένας μάγκας στα σαλόνια.
Τώρα μονάχα σε ένα γάτο.
Μόνο εμέν.
Ουραλέ.
Φτού.
Φεγγάρι.
Καλές γιορτές, χρόνια πολλά. Μ' αγάπη πάντα η καρδιά μας θα φτά.
I'm honored to be before that the choose your friend. I donate et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La Radio France.
Éloge du savoir. Ce matin, le Collège de France. Nous entendrons ce matin le dernier cours que le professeur Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques au Collège de France, a consacré pour la deuxième année consécutive au voyage de Pausanias en Béotie, cours qu'il poursuivra l'an prochain. Géographe, historien, esthète, écrivain, voyageur et touriste, Pausanias raconte les voyages qu'il fit dans les provinces de la Grèce de son temps, celles du IIe siècle après Jésus-Christ, dans une œuvre en 10 volumes intitulée « La Périégèse ». Chacun des volumes porte le nom de la province visitée. Pausanias est un informateur curieux et savant. Mais l'érudition de Denis Knopfler, qui est un grand déchiffreur d'énigmes, nous permet de prolonger et de préciser les visites de Pausanias. Denis Knopfler travaille en effet sur l'édition du livre neuf, qui est donc le livre où Pausanias raconte son voyage en Béotie, et a en quelque sorte remis à plat tout ce qu'on savait de ce texte, y compris sa place dans l'ensemble de la Périégèse. Car le texte, trop souvent recopié, comporte bien des lacunes et des erreurs de transcription, et de plus, les découvertes les plus récentes sur la Grèce antique permettent de lui offrir de nouveaux éclairages. De plus, Pausanias a écrit sur le terrain, mais aussi dans sa bibliothèque. Il n'est pas allé partout où il le dit, et Denis Knopfler, avec parfois un certain agacement, parfois avec humour et sympathie, nous montre comment le texte a été fabriqué. Ce matin, pour ce dernier cours, nous suivrons Pausanias aux confins de la Béotie en Locride et dans la ville de Copaï, au nord d'Anthédon, dont nous avons entendu parler hier matin, pour terminer sur une ville totalement oubliée, la ville de Boumeliteia. Denis Knopfler utilise dans ce cours les découvertes qu'il fit avec son ami Roland Étienne il y a une trentaine d'années.
Il y a des marques indéniables d'autopsie sur lesquelles nous avions insisté. Il y en a une d'emblée, on peut dire, remarquable, négative. Il dit à propos de la première des bourgades qu'il rencontre, tout près de Copaï, quand il se dirige ici d'abord vers l'ouest, Olmon, il dit eh bien à Olmon, il n'y avait vraiment rien à voir. Il n'y avait rien à voir. Hein. En réalité, c'est le meilleur des témoignages sur l'autopsie, un imparfait, qui est situé bien dans le temps. Et on voit que l'autopsie, elle ne se mesure pas à la longueur d'une notice. Hein. Une seule indication, même négative, est plus probante qu'un long développement qui peut avoir des sources purement livresques. La question d'Olmon, il faut bien s'en occuper, même s'il n'y avait rien à voir. Hein. C'est ça la géographie historique aussi. Et ce n'est pas simplement une promenade touristique. Il y a un petit problème d'Olmon, du fait que, selon notre texte, celui que vous avez sous les yeux, il est dit, on poursuit sa route à gauche de Copaï en venant d'Acréphia, c'est parfaitement exact, à gauche donc vers l'ouest.
sur une douzaine de stades, on trouve Olmon. D'Olmon, Yettos est distante de quelques 7 stades. 12 plus 7. Ça ne fait jamais que 19 ou 20 ou 20 ou 20 stades. Or, c'est-à-dire 3 kilomètres. Or, il y a là à coup sûr une erreur. Car on sait maintenant, on sait depuis plus d'un siècle, que Yettos se trouve là. Hein, on verra comment on l'a identifié. C'est-à-dire à plus de 10 kilomètres à vol d'oiseau, donc une quinzaine, peut-être 12, 15 kilomètres par les chemins, de Kopai. Autrement dit, une des deux données, 12, 7, est fausse. Laquelle? Alors c'est pourquoi il y a eu en fait deux tentatives, deux opinions sur Olmon. La plus courante, depuis le grand voyageur, l'infatigable voyageur qui a été Lolling, celui qui est l'Allemand qui a travaillé pour le corpus des inscriptions béotiennes à la fin du XIXe siècle, reprise par ce bon connaisseur de la géographie béotienne qui est John Fossé, que je me mentionnais tout à l'heure, on place Olmon normalement ici sur une colline rocheuse, l'Asprovouni, près de ce village de Pavlo. Mais alors donc, cette localisation implique que la distance de 12 stades est trop courte, et puis en réalité, elle implique aussi que la distance entre Olmon, qui serait là, et Yettos est trop courte, parce qu'il y a nettement plus de 16 stades entre les deux. Donc c'est une localisation qui n'est pas très satisfaisante, même s'il y a quelques vestiges, mais d'accès très difficile dans une colline rocheuse, on voit mal un établissement humain permanent se placer là. C'est pourquoi, mon camarade et moi, alors, nous avons défendu une autre localisation en bordure du Copaïs, ici, près d'une petite île qu'on appelle l'île de Stroviki, un village, c'est ça, c'est cette colline basse qui était dans le lac quasiment, vous voyez, avec le village au pied. L'avantage de cette localisation, c'est que elle est à proximité de vestiges mycéniens relativement importants. Or, on constate par Pausanias que le héros éponyme d'Olmon est lié à l'épopée, à la geste d'Orchomène, il le dit très clément. Cette région appartient à Orchomène. Aussi rattacherai-je à mon exposé sur cette cité tout ce que j'ai ouï dire au sujet de l'Argien Yettos et Dolmos, fils de Sisyphe. La présence de vestiges mycéniens à Stroviki serait notamment une raison pour localiser, je reviens à la carte de tout à l'heure, immédiatement à proximité de Kopai, à 2 kilomètres et demi, ça correspond assez bien aux douze stades. Il me semble qu'il y a là une localisation avantageuse. Mais alors évidemment, que faire des 7 stades? Parce qu'à ce moment-là, on est très loin de Yettos. On est nettement plus loin. Nous avons fait une suggestion qui n'a pas encore été entérinée par les philologues, par les éditeurs de Pausanias. Malheureusement, les éditeurs de Pausanias sont des philologues, justement, qui lisent peu les travaux d'histoire et de géographie. Mais nous la croyons bonne, et en tout cas, je parle ici à mon nom propre, je la crois bonne, et en tout cas méritant d'être mentionnée, puisqu'elle réglerait un problème de texte, 7 stades d'après Pausanias, c'est-à-dire selon la numération alphabétique, utilisée souvent dans les manuscrits, la lettre zeta. Vous admettez que ce zeta est une erreur, une simplification pour un xi. Vous savez, hein, que ce soit en majuscule ou en minuscule, le xi, les zeta de type ancien, sont deux lettres très proches et souvent confondues. Si vous admettez que dans le texte, c'est en réalité Xi, eh bien, vous avez 60 stades. 60 stades, c'est-à-dire environ 10 kilomètres. Et c'est exactement la distance entre Holmön, une fois qu'on l'a placé correctement, selon nous, en bordure de la Copaïs, vers Yettos, ici. Donc, c'est pourquoi je suis enclin à défendre à la fois cette correction de texte et cette localisation, les deux choses étant, on le voit, bien liées. Hein. La philologie et la topographie, ce que Louis Robert appelait si justement la terre et le papier. Hein. On ne peut pas séparer les deux choses. Il est amusant d'ailleurs de constater que pendant longtemps, on a placé, parfois dans des cartes un peu vieillies ou traditionnelles, conservatrices, on voit que Yettos est placé au bord du Copaïs. Pourquoi? Mais parce que c'était, on suivait Pausanias, on suivait les indications de Pausanias, les 12 stades, puis les 7 stades, on n'imaginait pas que cette ville est située évidemment beaucoup plus à l'intérieur, à 60 stades, à 10 kilomètres. Ouais. Mais, alors, dans le cas de Yettos, il faut le souligner nettement, la localisation est totalement assurée, elle l'est depuis plus d'un siècle, exactement depuis 1875, où un voyageur grec, un archéologue du service archéologique à ses débuts, avait découvert des inscriptions, d'abord un peu plus loin. Oui, voilà le site de Yettos, là au fond, depuis le sud, c'est cette acropole, depuis l'endroit certainement très important d'une source pérenne, et une petite acropole dont nous avons fait le relevé, avec dans la chapelle une base pour l'empereur Caracalla, que... on va voir tout à l'heure. Et puis, le long de ce mur, près de l'entrée, ici, une série de catalogues de conscrits sur ce mur, une série de catalogues qui montraient qu'on avait affaire à une cité qui faisait partie de la Confédération béotienne. C'était donc intéressant dans la mesure où on ne savait pas trop jusqu'où allait la Béotie, hein, en direction de la Locride. Là, il y avait mention de l'Archone Boyoto, ou l'Archone Boyoto, selon les cas. On n'avait pas le nom de la cité. On voyait que c'était une cité, une police. Il y avait un Archone Epipolios. Mais ce qui a été décisif, je n'insiste pas sur ces catalogues, qui sont gravés sur le mur d'enceinte, assez difficile à déchiffrer. Et... Alors, deux estampages ici d'un grand monument d'époque impériale, sans doute un monument en pie, pour la dynastie des Sévères, avec Septime Sévère, Caracalla, très certainement Julia Domna aussi, peut-être le second fils Geta. Or, dans l'une des dédicaces de ce monument, ici, vous avez Epolis Yetion. Epolis Yetion, dans la dernière ligne. Ça, c'était magnifique. On avait donc la preuve qu'on était à Yettos. Mais ça posait néanmoins un problème vis-à-vis du témoignage de Pausanias, puisque, vous l'avez sous les yeux, Pausanias nous dit aussi bien pour Holmön, ce qui doit être juste, que pour Yettos, ce qui est certainement faux, c'est que ces deux localités ne sont plus aujourd'hui que des bourgades et ce fut leur caractère dès l'origine, que des comailles. L'erreur est manifeste dans le cas de Yettos, puisque à la fois les catalogues et à la fois cette inscription qui date du début du IIIe siècle montre que cette acropole était le site d'une véritable cité. L'erreur est assez forte, est assez gênante, au point que nous avons été amenés à penser que, peut-être découragés par l'absence de choses intéressantes à Holmön, Pausanias n'était pas allé plus loin et qu'il avait donc décrit l'itinéraire suivant, non pas des visus, mais en s'informant dans les livres. Sur ce point, je dois dire qu'après une longue fréquentation de Pausanias, j'ai changé d'avis. Et j'estime que, même si l'erreur est incontestablement assez forte, et qu'il y avait sur le site toutes sortes de preuves qu'elle était une cité, je pense qu'il y a bien des indices, et à Iéthos, et au-delà d'Iéthos, qui montrent que Pausanias a fait le voyage. Il y a là toutes sortes de notations trop précises pour être empruntées à une source littéraire. Donc il faut admettre que Pausanias n'a pas regardé de près les inscriptions d'Iéthos. Elle lui aurait fourni, certes, n'allons pas lui demander de se mettre à genoux comme un épigraphiste devant les catalogues de la muraille d'Iéthos, mais il devait y avoir des bases impériales, à tout le moins. Celle de Caracalla et de Septimius n'était pas la première. Et il a peut-être la manqué de perspicacité. Son témoignage sur Iéthos n'en est pas moins intéressant à plusieurs égards, et notamment il note que Iéthos possède, à la différence de cette triste bourgade d'Olmon, un temple d'Héraclès, et les personnes souffrantes peuvent obtenir de ce dieu des remèdes, yamata, à leur maladie. Et il fait cette observation qui, je pense, témoigne de sa présence. Au lieu d'une statue à Galma, faite avec ta arme et ta technèse, c'est à la manière ancienne une pierre brute, argos, lithos, qui s'y trouve. Donc, un sanctuaire remarquable, sans statue, avec une espèce de bétile, une pierre. Cette pierre, il va sans dire que nous ne l'avons pas retrouvée. Surtout une pierre brute, allez la distinguer de d'autres pierres brutes. Elle était quand même peut-être un petit peu moins brute que d'autres. Mais elle était remarquable. Elle était sans doute remarquable, et nous avons fait un rapprochement qui n'avait jamais été fait, je crois, avec un texte, un des très rares textes, en réalité, qui mentionne Iéthos, puisque Iéthos ne figure ni chez Strabon, ni chez Ptolémée, pratiquement chez aucun historien, mais Pline l'Ancien, dans cette encyclopédie qu'est l'histoire naturelle, au livre 36, sauf erreur, oui, par 128, il dit, à propos, livre qui est consacré aux métaux, à propos de la magnétite, il dit qu'il y a, d'après un auteur hellénistique qui s'appelle Sotakos, 5 genres de magnétite. Donc, cette pierre qui est un minerai, un riche minerai de fer, et qui est la pierre d'aimant. Et la troisième catégorie de ces pierres, c'est Tertium in Iéthô Boéotiae. Et il insiste encore, les pierres de Boéotie, donc de Iéthos, ont une couleur plus rouge que noir, plus rougeâtre que noirâtre. Or, cette acropole d'Iéthos est très très remarquable, elle est rougeâtre, c'est un gisement de magnétite, et d'ailleurs tous les environs de la colline que vous avez vue tout à l'heure de loin ont été exploités encore jusqu'avant la dernière guerre par une compagnie italienne qui extrayait le minerai pour en tirer du fer. Nous avons donc émis l'hypothèse que l'Argos Lithos, consacré à Héraclès, était un bloc de magnétite pour deux raisons. Parce que d'abord, selon les anciens, ce métal ou ce minerai avait des vertus lénifiantes, donc peut-être curative d'une certaine manière, et surtout parce que on a plusieurs textes qui montrent que la magnétite s'appelait souvent l'Héracléios Lithos, d'où le sanctuaire d'Héraclès. Sanctuaire d'Héraclès, sanctuaire de la force, une force qui attire et qui en même temps soigne. Et cette hypothèse a été bien accueillie, notamment par le spécialiste des cultes de la Béotie, notre ami Albert Charter.
Nous avons essayé de faire un pas de plus à propos d'une inscription, à vrai dire un peu malaisée à déchiffrer. Donc, je vous montre d'abord une photographie ici, puis surtout le texte. C'est cette pierre. C'est pas l'argos lithos, mais il ressemble un petit peu. C'est quand même un cip taillé qui porte trois lignes d'inscription. Et nous avons lu ceci, non sans mal. C'est reproduit ici dans le supplementum epigraphicum graecum. O, puis un vide, aneis, epito, manteio. Il y avait à coup sûr, ça, c'était le point tout à fait certain, il y avait mention d'un oracle. C'était tout de même intéressant de découvrir à Iétos un oracle. Demi-surprise peut-être, dans la mesure où l'on sait que la Béotie était la terre par excellence des oracles. Il suffit de lire plus tard que de la disparition des oracles, il en évoque plusieurs dans cette terre béotienne, pas seulement les plus célèbres, le Ptoion, Trophonios, mais il y avait des oracles un peu partout, des oracles en relation avec des cultes de iatro, disons mantiques, on soignait. Alors, que veut dire cette inscription? Nous nous sommes demandé s'il y avait là un manéis, celui qui devient fou, le fou. Mais beaucoup de peine à lire le mu. Puis ensuite, épito, une espèce d'impératif du verbe eimi, aller, que le fou s'approche de l'oracle avec un datif. Nous n'étions peut-être pas très loin de la vérité, mais la vérité a été vue immédiatement après notre publication, je tiens à lui rendre hommage, par l'excellent épigraphiste de Delphes, Jean Bousquet, dans un petit article de 1977 du bulletin de correspondance hellénique, a fait la suggestion suivante, à laquelle j'adhère, c'est de lire bel et bien un mu, lire ou restituer un mu, d'y voir bel et bien un fou, quelqu'un qui est saisi de folie, peut-être une crise d'épilepsie, et qui, non pas épito, mais exito, que celui qui est le pi, en réalité, il y a un xi avec la barre, nous n'avons vu que la barre supérieure, qu'on avons pris pour un pi, et je suis convaincu, en regardant la pierre, que c'est bien un xi. Donc, il ne s'agit plus d'entrer et de sortir, que l'homme frappé d'épilepsie ou de folie sorte, et puis Manteio devient un génitif, non plus un datif, mais un génitif dialectal, tout à fait correct. Qu'il quitte, alors, pour ne pas commettre de dégâts ou de dommages à des personnes ou à des choses. Bref, on a une petite loi sacrée, réduite à très peu de choses, qui se rapproche de celle qu'on connaît, qui stipule toutes sortes de règles de purification, normalement à l'entrée. Ici, ce qui est original, c'est que on oblige à sortir. Mais je crois qu'en définitive que Bousquet avait parfaitement raison. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais ajouter sur Iétos, donc qui est relativement bien connu, où des travaux ont été faits depuis, des travaux de survey, comme on dit, d'exploration, qui ont probablement apporté quelques éléments sur l'occupation du sol, mais sans révolutionner, si je vois bien, l'histoire même du site, qui se prolonge assez tard, jusqu'à l'époque byzantine et au-delà, parce que Iétos, à l'intérieur des terres, avait un climat sans doute plus favorable que les rives du Copaïs. On voit que beaucoup de villes du Copaïs disparaissent à la basse antiquité, à commencer par Orchomène, même la grande cité d'Orchomène, mais Iétos subsiste encore à l'époque byzantine jusqu'aux invasions slaves, sans doute. Bon, laissons Iétos,
et passons à la suivante, si j'ose dire, la petite localité de Kirton, paragraphe 4. Une vingtaine de stades, dit Pausanias, séparent Iétos de Kirton, petite ville qui s'appelait primitivement, dit-on, Kirtonais. Elle est bâtie sur une haute montagne et possède un temple d'Apollon entouré d'un bois sacré. On y voit des statues d'Apollon et d'Artémis représentées debout. Il y a dans cette même ville une source d'eau froide qui jaillit d'un rocher. Auprès de la source se trouve un sanctuaire des nymphes et un bois sacré de peu d'étendue dont les arbres sont tous également plantés. Ils sont tous émérailles, sont tous apprivoisés en quelque sorte. Vous voyez que cette petite évocation, elle est pleine de vie, de charme. Elle témoigne, je crois, clairement de l'autopsia. L'affaire semble, de ce point en tout cas, entendue. Alors, Kirton, revenons à notre carte. On l'a cherché, évidemment, tant qu'on n'avait pas placé Iétos correctement, on cherchait Kirton par ici, Martineau, jusque même à Malessina. On s'était tout à fait orienté vers l'est. Alors qu'en réalité, il y a deux indices au moins très, très clairs qui auraient dû faciliter, car cette localisation était en réalité très laborieuse. Quels sont les éléments qui donnent des clés de la localisation? C'est d'abord la haute montagne, Upsilon Horos. Il n'y a pas 36 hautes montagnes dans cette région, certes montagneuse, mais une montagne qui se détache clairement, c'est ici le mont Hlomon, qui, vous voyez, dépasse 1000 mètres, ça se voit. C'est une montagne en pain de sucre assez caractéristique qu'on voit de loin dans le Copaïs. Donc, Kirton est près d'une haute montagne. Cet élément, associé avec l'existence d'une source remarquable, d'une source d'eau froide, dit Pausanias, a été une raison pour le bon connaisseur anglo-saxon du début du XXe siècle, Oldfather, qui s'était intéressé surtout à la Locride, de placer justement Kirton au voisinage du village de Kolaka, où il y avait des vestiges d'une nécropole, même une petite dédicace, et puis où il y avait également un rocher à l'entrée, avec une source pérenne. Vous distinguez, je ne sais pas si vous voyez l'eau ici qui coule dans ce secteur, là, elle coule en plein été, de façon constante. Donc, les éléments étaient réunis pour placer là Kirton, et on s'étonne que, malgré la découverte d'Oldfather en 1914, de bons connaisseurs encore de l'histoire, de la géographie, de l'épigraphie, comme les Allemands Klaffenbach, auteur de si beaux corpus épigraphiques de la Grèce centrale, que le spécialiste de la géographie Kirsten, et rechigné en quelque sorte à accepter cette localisation de Kirton au village de Kolaka, cherchant, comme je vous l'ai montré, beaucoup plus à l'est, sur des sites qui n'avaient véritablement rien pour eux, qui existaient certes, qui aient quelques éléments archéologiques, mais ça ne suffit pas pour asseoir une identification. Cela ne nous a pas empêché d'adhérer à l'opinion de Oldfather, et nous avons été suivis ensuite par d'autres qui se sont occupés de géographie historique des confins locridiens, comme justement John Fossé. Et aujourd'hui, cette localisation, on peut dire qu'elle est devenue classique. Elle a été entérinée dans des répertoires, dans un atlas de référence, comme celui qu'on appelle Barrington Atlas, publié par Talbert aux États-Unis. Donc, il me semble que pour Kirton, l'affaire est entendue.
Les distances jouent très bien. Si on revient encore une fois, autre carte. Voilà. Les 20 stades à peu près dans cette direction. Il n'y a pas de bonne route. Il n'y a pas de bonne route. C'est un chemin et un ravin ici assez important. De sorte que nous avons émis l'hypothèse que Kirton, dont rien n'indique que ça ait été une cité. Hein, à la différence de Yetos, ça n'est pas une cité. C'est un bourg, une bourgade, donc qui dépendait d'une autre cité. Et cette autre cité, malgré un éloignement relatif, doit être sans doute Orchomène. Parce qu'il y a de bonnes bonnes routes le long de cette rivière en particulier. On monte facilement, enfin relativement facilement, par des ravins ici vers Kirton. Il faut tenir compte de cela dans la géographie historique. Ce sont les facilités de communication. Ce n'est pas seulement une question de distance. Voilà donc pour Kirton. Et nous allons, si vous le voulez bien, continuer encore notre petit voyage. Avec ce passage de Pausanias, chapitre 5, nous sommes donc, nous avons passé Kirton, voilà, Corseia, Egde Kurtonon, Hyperbalonti. Hyperbalonti, il y a une notion ici tout à fait intéressante, de Kirton, si l'on franchit la montagne, on atteint la petite ville de Corseia, au-dessous de laquelle s'étend un bois sacré. Ce sont des arbres sauvages, cette fois, sauvages, ils ne sont plus plantés, surtout des chênes verts. Une petite statue d'Hermès se dresse en plein air dans ce bois qui est situé à environ un demi-stade de Corseia. Une fois descendu dans la plaine, on rencontre un fleuve, le Platanios, qui se jette dans la mer. Donc, quelques indications précieuses aussi et précises dans ce passage. Et pourtant, on a beaucoup erré dans la localisation de Corseia. Vous verrez qu'aujourd'hui encore, elle peut être discutée. La localisation traditionnelle, hein, à cause du Hyperbalonti, la traversée de la montagne, c'était de mettre cette ville de Corseia franchement en Locride, c'est-à-dire en bordure de mer. Voilà ma flèche qui venait ici, hein, dans ici près de Proskina Chiliagou, ici, il y a une petite plaine côtière, avec le fleuve Platanios, qui est certainement égal à ce Rebenico, qui est là, qui se jette dans la mer, comme dit Pausanias. Hein. Encore une fois, une localisation traditionnelle, et qui est défendue aujourd'hui encore par certains. Mais elle fait d'énormes difficultés, cette localisation. D'abord, on ne comprendrait pas que Pausanias se soit exprimé ainsi, puisqu'il mentionne la rivière Platanios après avoir parlé de Corseia. Hein. Il y a Corseia, et puis ensuite, si l'on descend vers la plaine, on rencontre un fleuve, Platanios. Il aurait été tout à fait illogique notre Corseia ait été au-delà du fleuve, tout près de Halaï, de s'exprimer ainsi. Et il ne faut pas non plus se méprendre sur l'expression « si l'on franchit la montagne, on atteint la petite ville ». Il ne dit pas du tout qu'il ait franchi la montagne et qu'il soit descendu pour rencontrer cette ville. Non, simplement, il passe un col, il se trouve sur l'autre versant, sur le versant nord de la montagne. Sur la base de ces indices, et de cette lecture, je crois, plus rigoureuse du texte de Pausanias, nous avons proposé, donc en 1976, de localiser Corseia à des ruines qui étaient restées pratiquement inconnues. Quelques mentions chez les voyageurs du 19e siècle, aucun dessin, aucune photographie, près du village de Neohori, un petit peu au nord, ici. Vous voyez Corseia, si la flèche veut bien venir, voilà, Neohori, et puis les ruines un tout petit peu au nord, déjà précisément sur l'autre versant
de la montagne, notamment cette vue d'une tour encore bien conservée, d'une tour du IVe siècle ou plus tardive éventuellement, d'un tronçon de courtine en appareil polygonal, donc des vestiges assez importants, et qui surtout correspondent admirablement à la situation de Corcella telle que Pausanias l'évoque dans ce passage, c'est-à-dire une cité, enfin plutôt disons une localité située déjà sur l'autre côté de la montagne, un peu plus en avant, voilà. De l'autre côté de la montagne, vous avez les vestiges, vous voyez les vestiges d'une des tours, vous avez là une vue sur ce qui n'est plus la Béotie du tout, hein, c'est-à-dire la Locride, la plaine d'Oponte sur la gauche, et l'île de Bé, le canal Euboïque. Hein. Nous sommes déjà dans un autre pays, nous avons évidemment franchi la montagne. Il y a de très bonnes raisons pour proposer et défendre cette identification. Elle a rencontré, je dois dire, un bon accueil, et elle est considérée comme assurée maintenant par beaucoup de spécialistes de la Béotie, comme justement John Fossé, ou dans son répertoire des cités du monde grec, le Danois Mogens Hansen, qui ont accepté cette localisation, qui, je crois, donne une certaine clarté, à cet itinéraire de Pausanias. Deux questions d'ordre plutôt historique se posent maintenant à propos de Corcella. La première, c'est que rien n'indique que l'on ait affaire à une cité. C'était une forteresse, très bien située, hein, reste à savoir à quoi elle servait, mais en tout cas un poste d'observatoire remarquable. Rien n'indique que c'était une ville entourée d'un territoire, ayant une autonomie au sein d'un État fédéral, soit de Locride, soit de Béotie. Et sur ce point, je dois contester une opinion qui a été émise par un collègue de Lyon, qui, de manière intéressante, a modélisé, je vous avais déjà montré une fois cette carte, la géographie historique de la Béotie à partir des centres civiques, hein, plus ou moins importants. Il a montré quels pouvaient être, de manière théorique, les centres civiques et les territoires. Alors, dans bien des cas, c'est tout à fait incontestable. Mais vous voyez que sur la base de notre identification de Corcella à la forteresse de Nérori, il en a fait une cité. Il en a fait une cité dans la montagne, ici, hein, exactement à l'endroit où nous l'avons mis, à proximité du mont Holomon. Et il a dessiné un cercle, comme si on avait affaire à une cité. Mais je crois que cela aboutit à une impasse. Parce que nous sommes d'ailleurs en pleine montagne, il n'y a pas de véritable territoire de culture. On voit que ce cercle de Corcella empiète très fortement sur le territoire d'Iétos, en réalité, hein, ce qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette modélisation. Et puis, alors, inversement, on voit que le cercle ne rencontre rien du côté du nord-est. Hein. Il ne rencontre pas l'autre cité de Alai. En réalité, on va le voir, la cité n'était pas là, mais elle était dans la plaine. Hein. Il y avait une autre cité qui ne s'appelait pas Corcella, mais qui s'appelait Boumeliteia, hein, qu'il faut placer là. Entre les deux, et de ce point de vue, on ne peut que rendre hommage à l'auteur, puisque son modèle, en fait, nous aide à réfléchir et à trouver sans doute la bonne solution. Voilà donc, Corcella n'est pas une cité, c'est une forteresse qui contrôle un col, précisément, un col très important entre la Locride et la Béotie, une voie de pénétration de la Locride vers la Béotie. Cela pose une autre question que nous n'avions fait qu'aborder en 1976, et question sur laquelle je donne rapidement mon opinion maintenant, c'est de savoir si cette localité de Corcella, dont on voit que c'est une forteresse, doit être identifiée avec une ville que certains auteurs appellent justement Corcia, Corciae, et qui joue un rôle au cours de la troisième guerre sacrée, donc de cette guerre qui est autour du sanctuaire de Delphes, entre 356 et 346, met aux prises notamment les Phocidiens, maîtres du sanctuaire de Delphes, et plusieurs peuples amphictyoniques, dont en particulier, très particulièrement, les Béotiens. Effectivement, d'après deux auteurs, qui sont nos sources essentielles pour le milieu du IVe siècle, Diodore, livre 16, chapitre 58, on voit que les Phocidiens, pendant cette guerre sacrée, parviennent, vers la fin, 348-347, parviennent à mettre la main sur un certain nombre de cités, localités béotiennes. Diodore cite Katadeten Boyotian, Oimen Phokeis, Treis Poleis, Okurosas, ayant fortifié trois Poleis, à savoir Orchomen, Coroné et Corcias. Et à partir de ces forteresses, ils font des attaques à l'intérieur de la Béotie, ce sont donc des points de soutien pour leurs troupes en Béotie. Ce témoignage est confirmé par Démosthène, on peut être surpris de voir Démosthène intervenir ici, mais dans son discours sur l'ambassade infidèle, de 343, donc le discours 19, il rappelle que la paix qui met fin à cette guerre, la paix voulue par Philippe en 346, a valu des bienfaits aux Béotiens, et notamment de pouvoir récupérer, dit-il, un certain nombre de places, Orchomène, Coroné, Corcia, Orchomenos, Coroné, Corcia, et le Tilphosaion. Le Tilphosaion, c'est-à-dire une forteresse qui se trouve au sud du lac Copaïs. Très généralement, on admet que cette ville de Corciae, mentionnée par nos deux auteurs, comme base stratégique par les Phocidiens en Béotie, c'est la cité de Corciae, ici, à la frontière de la Phocide et de la Béotie, mais en Béotie même, tout au sud-ouest de la Béotie, et non pas Corcella, qui est ici. C'est la vue la plus couramment adoptée aujourd'hui encore. Et c'est notamment l'opinion que défendait, de manière intéressante, Paul Rush, dans ses travaux sur la Béotie, notamment en 1970, où il avait posé de manière, en quelque sorte théorique, une série de conditions que devait remplir Corciae, ou tel site, pour pouvoir être identifié à cette forteresse de Corciae. Il disait très justement, elle doit être située en territoire béotien, elle doit avoir une certaine importance, elle doit être pourvue de fortifications, elle doit avoir un accès sûr par l'arrière depuis la Phocide, puisque ce sont les Phocidiens qui l'occupent comme base, et puis commander d'une certaine façon une voie de pénétration. Alors, ayant posé ces conditions, que fait Paul Rush? Il constate que il constate que Corseia, notre Corseia, si j'ose dire, la Corseia aux confins de la Locride, ne remplit aucune des conditions. Aucune des conditions. Pourquoi ? Mais parce que, à l'époque où il écrivait, Corseia était localisée de façon erronée. Je reviens encore une fois à la carte. De façon erronée, voilà, dans cette région où effectivement nous ne sommes plus en Béotie, où il n'y a pas trace de fortification, où il n'y a pas de voie de pénétration vers la Béotie, pas de voie de pénétration directe, où il n'y a pas de contact direct avec la Phocide, puisque la Phocide est ici, disons, en bordure du Hlomon, Exarchos, Abai et Iampolis, qui sont juste au-delà du mont Hlomon. Donc, il est clair que cette Corseia-là ne remplissait aucune des conditions, mais j'estime toujours que la nouvelle Corseia, celle que nous avons placée dans ces fortifications restées inconnues jusqu'alors, remplit au contraire admirablement toutes les conditions. On ne peut pas objecter que cette Corseia n'est pas une police, parce qu'on voit bien que ça n'était pas une condition fondamentale. Le Tilphosaion mentionné par Démosthène n'est pas une police, c'est simplement une fortification. Il s'ajoute deux choses, pour terminer sur ce point. C'est que, aussi bien Diodore que Démosthène, quand ils mentionnent Corsiae, utilisent toujours l'orthographe avec kappa, et non pas l'orthographe avec chi. Or, Corsiae du sud-ouest s'écrit, on le voit bien par nos, par les inscriptions notamment, toujours avec un chi. Non, il y a une différence orthographique entre les deux. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit que cette Corsiae située là, certes en contact avec la Phocide, est un endroit du bout du monde, qui n'a pas de communication aisée ni avec la Phocide, ni avec la Béotie. C'est un endroit tellement éloigné que Pausanias n'y est pas allé et qu'il en a ignoré totalement l'existence alors que c'était une cité béotienne. C'est un endroit qui n'est pas un endroit de passage. Il faut être absolument contraint pour y aller, sinon par la mer. Et en plus, c'était inutile pour les Phocidiens puisqu'ils tenaient la route par Coronée. D'ailleurs, il aurait fallu, pour que ce soit utile pour eux, ne pas tenir simplement Corsiae, mais au moins Thisbé, qui contrôle ensuite la route du col qui mène à Coronée. Donc, Corsiae, à mon avis, ne servait à rien pour les Phocidiens. Je renverse donc la localisation. Terminons alors par cette ville inconnue de Pausanias, dans son itinéraire qui le mène de Copaï à Alaï. On pourrait penser que, effectivement, Pausanias n'est pas allé jusqu'à Alaï. Arrivé à Corseia, il est descendu dans la plaine, certes, il est descendu, il a vu le Platanios, mais n'oublions pas qu'il avait aussi l'intention de visiter la Locride, de visiter Oponte, dans un chapitre qu'il n'a pas rédigé. Il avait prévu pour la fin du livre après avoir parlé des Locriens de l'Ouest. Il fait beaucoup d'allusions à cette région, mais il n'a pas achevé. Donc, à mon avis, depuis Corseia, il est parti vers la Locride. Il n'est pas allé jusqu'à Alaï, qu'il ne connaît que par les livres, il n'en dit rien d'important. Et c'est ce qui lui a fait manquer, en quelque sorte, une petite cité qui se trouvait là, à l'emplacement de la pseudo-Corseia, ici, ce faux site de Corseia, à Proskina. Cette cité de Boumeliteia, alors pour terminer là-dessus, comment la connaissons-nous, puisqu'en réalité, aucun auteur n'en parle. Une liste byzantine, une liste de villes byzantines, ce qu'on appelle le Synecdémos d'Héroclès. Donc, c'est de cela que nous allons parler ici. de cette région là, hein, Boumélitéia. Voilà, une liste, hein, une liste qui date du VIe siècle, qui est d'ailleurs tout à fait intéressante. On a un certain nombre de villes qui existent encore au VIe siècle, et on voit que beaucoup ont disparu, hein, notamment, je vous disais, Orchomène n'y est plus, Aliart n'y est plus, Akraifia n'y est plus, je crois. Mais il y a encore Iétos, ici, il y a encore Thespie, naturellement. Hein, dans cette première colonne, c'est une liste pratiquement contemporaine qu'on appelle la liste de Bohr. Et vous avez ici Boumélita. Hein, voilà tout le seul texte antique ou antico-byzantin qui mentionne cette ville de Boumélita. De là, on ne pouvait rien dire. Hein, on ne pouvait rien dire sur la localisation, parce que la liste n'est pas géographique. Mais bientôt sont apparues des inscriptions. Et la première, à gauche, connue depuis le corpus de Béotie, depuis à peu près donc 1890, est une inscription de Lebadé, un conte d'un agonothète. Sur la tranche, il y a la liste des cités qui participent, hein, et vous avez plusieurs noms. D'abord, un nom qui a disparu, puis Antedonioi, les gens d'Antedon, hein, les gens d'Akraifia, les gens de Boumélita, Boumélitaios, donc première apparition, Larimna, ville de Locride, Béotie, un petit peu plus au sud, et puis nos Copaioi ou Copaieis, qui sont les gens de Copai. Donc une liste très intéressante, et qui assure quoi? L'existence d'une cité de Boumélita, ou Boumélitaia plutôt, à la date de cette inscription, c'est-à-dire vers 100 avant Jésus-Christ, dans un environnement géographique qui est très révélateur, et surtout dans un environnement politique, puisque toutes ces cités appartiennent à ce qui reste, enfin, ce qu'est alors encore le koinon béotien. Je passe d'abord à la suivante. Une autre inscription, celle-ci d'Akraifia, publiée en 1920, et qui est une nouvelle liste attenante au compte d'un agonothète et à une liste de victoires. Vous voyez, ces villes ont participé au sacrifice. Il y a des Thébains, donc des délégués de Thèbes, des délégués de Thespie, des délégués d'Orchomène, des délégués de Délébadé, de Copai, et puis enfin des délégués de Boumélitéia, des Boumélitaieis. On a fait évidemment, Maurice Ollo vers 1900 qui a fait le rapport entre la liste de Hiéroclès et ces listes-là, qui était assez révélatrice de l'existence de cette cité, de son statut politique. Si je reviens à... c'est un troisième document encore inédit qu'avait copié Paul Roche à Lebadé, qu'il faudra publier maintenant. C'est un conte, d'ailleurs, assez intéressant, avec des mentions de sommes dues par un certain nombre de cités. Vous avez les gens de Tanagra, vous avez les gens d'Oropos, vous avez ceux d'Orchomène, ceux d'Oponte, très intéressant puisqu'on est là déjà plus au nord que Boumélita, Orchomène, Akraifia, Lebadé, une fois encore, Boumélitaieis, les gens de Copai, les gens de Iétos, hein, à peu près toutes les cités de la Béotie aussi. Ce témoignage est tout à fait important. Et il, certes, ne permettait pas encore de situer précisément, hein, et un document qui est venu apporter quelques indications supplémentaires très bienvenues, c'est en 1919, à Delphes, un arbitrage sans doute exercé par la cité de Thèbes, puisqu'on l'a trouvé sur des blocs qui appartiennent à ce qu'on appelle le trésor de Thèbes à Delphes, un arbitrage entre Allaï et Boumélitéia.
C'était Éloge du savoir ce matin, le Collège de France avec Denis Knopfler. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé.
Samedi sur France Culture, dans Réplique, deux invités confrontent leur point de vue sur des questions auxquelles ils ont été amenés à réfléchir. Alain Finkielkraut a réuni pour vous un certain nombre de ses entretiens autour de la littérature dans un ouvrage « Ce que peut la littérature ». Retrouvez entre autres les propos de Mona Ouzouf et Pierre Manon sur le pouvoir du roman, ceux de Jean-Pierre Martin et Philippe Solers sur Céline, ou encore l'échange entre Jacques Roubaud et Jacques Garrilli sur la place des poètes. Ce que peut la littérature, un ouvrage réalisé sous la direction d'Alain Finkielkraut, une coédition France Culture. Un feuilleton haletant, interrompu par un coup de tête à la 110e minute de la finale de Coupe du Monde de football, du 16 au 18 octobre, retour sur Actualité. Sur les docs, vous propose trois documentaires mêlant archives, interventions d'hommes politiques, commentaires de footballeurs et de journalistes, d'historiens, critiques de l'image, essayistes, pour apporter, deux mois plus tard, un autre regard sur cet événement. Retour sur Actualité, le coup de boule de Zidane, esquisse en creux du monde du football aujourd'hui et du sport. Sur les docks, dernier volet cet après-midi à 16h. Votre matinée sur France Culture, 9h05, la fabrique de l'histoire. Cette semaine, l'histoire des bonnes ou mauvaises mœurs. 10h, les humanités jusqu'à la lune et retour, en compagnie de Marie Rivière, comédienne, à propos de la pièce de Carole Fréchette, La peau d'Elisa, à voir jusqu'au 28 octobre au théâtre du Lucernaire à Paris, et de Guillaume Guéraud, auteur du livre Va savoir comment, aux éditions Sarbacane, destiné aux lecteurs des 6 ans. 10h30, histoire d'écoute, Amélie de Dominique Cigaud, l'histoire d'une petite fille qui se rêve en grande chanteuse. 11h, les chemins de la connaissance, cette semaine plonge en eau trouble et nous raconte une histoire du milieu, un mot qui apparaît pour la première fois en 1920 sous la plume de Francis Carco et disparaît progressivement dans les années 70 avec la réalité qu'il désigne sous l'effet de la mondialisation du trafic de drogue notamment. Une histoire racontée aussi dans une exposition à voir jusqu'au 31 janvier à la Bilippo, bibliothèque de littérature policière de la ville de Paris. Troisième volet, légende du milieu, avec l'un des commissaires de l'exposition, Jérôme Pirat, journaliste, auteur de « Une histoire du milieu, grand banditisme et haute pègre en France de 1850 à nos jours ». Et tout de suite, debout, les matins de France Culture ont sonné, l'heure de retrouver Ali Badou.
Bonjour à tous et bon réveil, il est 6h59 et dans les matins, ce mercredi à 7h20, les enjeux internationaux au programme « La Palestine ». Les racines profondes et les conséquences de l'affrontement entre le Fatah et le Hamas dans les territoires occupés, c'est ce dont nous parlera tout à l'heure Thierry Garcin. Et puis cinéma à 8h20 dans l'émission. Tout à l'heure sort dans les salles le magnifique Bamako d'Abderrahman Sissako. Le film était en compétition au dernier festival de Cannes. Bamako raconte un procès impossible, celui qui se tient dans la petite cour d'une maison d'un quartier populaire de Bamako. Convoqué devant les juges, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, le chef d'accusation, les politiques d'ajustement structurel et leurs conséquences sur la vie des Africains et plus généralement des habitants des pays en voie de développement, pour la défense, les avocats et les victimes directes de ces politiques, les compresser, les déflatter, les ajuster qui succèdent à la barre pour témoigner. Verdict tout à l'heure en compagnie d'Abderrahman Sissako. Vous écoutez France Culture, il est 7h. Et le journal est présenté par Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali et bonjour à tous. Les sans-papiers de Toulouse auront un toit, provisoire certes, mais un accord a pu être trouvé hier soir entre la préfecture et les associations. Les trois prétendants socialistes au banc d'essai au lendemain de cette première prestation télévisée des candidats à l'investiture du PS. Nous verrons avec Hubert Huertas qui s'en tire le mieux. À l'étranger, nous irons visiter le mur avec Marc Crépin, le mur que l'administration Bush fait ériger entre les États-Unis et le Mexique. Réponse à l'immigration clandestine dont nous verrons qu'elle ne satisfait pas même dans le camp du président. Puis nous irons également constater la dégradation de la situation des droits de l'homme en Russie. Ségolène Royal était la plus à gauche hier soir, la plus à gauche sur l'écran de télévision. Le tirage au sort lui avait donné le pupitre de gauche. À droite, Laurent Fabius. Au centre, la place la plus convoitée, Dominique Strauss-Kahn. Lors de cette première confrontation télévisée de la vie de tous, sans grande surprise et plutôt consensuelle, les trois prétendants à l'investiture du Parti Socialiste, tout en prenant soin de se référer au projet du PS pour 2007, ont donc livré leur point de vue sur les questions économiques et sociales. Au menu, 35 heures, délocalisation, SMIC, emploi. Petit écho des trois dans l'ordre, Fabius, Royal et Strauss-Kahn.
Il ne faut pas laisser dire que les 35 heures ont été un échec. Ce n'est pas vrai. Et donc, je dis de manière très claire que si je suis élu président de la République, les 35 heures seront généralisées.
Vous savez, moi, ma conception de la politique, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Et non pas se bercer avec des formules ou faire croire qu'il n'y a pas de problème. Les 35 heures ont été un formidable progrès social. Mais pour une minorité de salariés, elles ont constitué une régression sociale. Donc il va falloir réparer cela.
L'objectif que moi je fixe, c'est celui du plein emploi dans notre pays en moins de 10 ans. Bien sûr, beaucoup sont inquiets, les Français sont inquiets. Je comprends bien cette angoisse. Elle vient de ce que nous entrons dans une période nouvelle. Une période dans laquelle il y a beaucoup de changements. Parce qu'il y a ces changements, on ne peut pas répéter la même chose que ce que nous avons fait dans le passé. C'est donc une autre voie que ce que fait la droite aujourd'hui, et une autre voie que ce que fit la gauche dans le passé.
Voilà, une petite minute, extraite des 100 minutes de cette première prestation télévisée. Nous allons maintenant essayer d'entrer plus avant dans le débat avec vous, Hubert Huertas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez choisi de regarder intégralement la télévision et le débat avec les militants d'une section parisienne. Alors, on sait qu'à l'issue, bien sûr, de cette prestation, les états-majors de chacun des candidats se sont félicités des prestations respectives de leur poulain. Mais comment les militants qui vont être consultés ont vécu, eux, cette soirée?
Bah, écoutez, je me trouvais hier soir au milieu des militants du 1er et du 2e arrondissement de Paris, dont le cœur bat plutôt pour Dominique Strauss-Kahn, et voici leur réaction collective. 5 secondes d'applaudissements francs et massifs au moment de la conclusion du candidat préféré. D'autres confrères présents dans d'autres sections, section royaliste par exemple, ont ramené la même anecdote. 5 secondes d'applaudissements après la conclusion de Ségolène Royal. En un mot, ce débat fut plutôt décevant. On attendait une arène avec 3 combattants, on a passé 2 heures avec 3 conférenciers, membres du même parti, qui évitaient d'insulter l'avenir en s'en prenant à leurs voisins et qui développaient sagement les chapitres d'un programme. Mais après tout, faudrait savoir. On se lamente quand les responsables politiques dérapent dans la politique spectacle, et voilà maintenant ce matin qu'on les juge, pardon du mot, un peu emmerdants, parce qu'ils ont décidé d'être sérieux. Alors prenons les uns et les autres au banc d'essai. Le plus contraint, le plus en dedans sans doute, fut Laurent Fabius, dont la puissance de tribun avait plutôt passé la muselière. Pas un croc ne dépassait hier soir. Sa force, une mesure emblématique, le SMIC à 1 500 €. Sa faiblesse, est-il vraiment crédible en facteur besancenot? La plus conforme au point de réciter certains passages de son meeting de Vitrolles fut Ségolène Royal. Sa force, on lui parle d'un grand problème, elle vous répond par la vie des gens. Sa faiblesse éventuelle, le petit bout de la lorgnette, est-il une grande ambition? Le plus à l'aise, le plus brillant dans la démonstration fut Dominique Strauss-Kahn, dans le style professeur qui épate ses élèves. Sa force, c'est la télé, il y est meilleur qu'en meeting. Sa faiblesse éventuelle, c'est l'envers de sa force. Les militants, puis les Français, ont-ils vraiment envie d'un magistère magistral, ou bien sont-ils rebutés par les premiers de la classe?
Oui, c'est un peu la question, hein, Hubert. On peut se demander ce matin qui a vraiment tiré son épingle du jeu.
Voilà, j'ai presque répondu, mais je le dis tout de suite, cette réponse ne vaut que ce qu'elle vaut, c'est la mienne, on verra pour la suite. Alors, Laurent Fabius, semble-t-il, ne s'est pas déployé. Ségolène Royal a montré ses limites, mais en même temps, sa résistance, elle n'a pas explosé, ce qui fait dire à certains commentateurs qu'elle a gagné. Et Dominique Strauss-Kahn, lui, a semblé dominer son sujet. Côté brio, dans un exercice qui a manqué de brillance, c'est son étoile qui clignotait le mieux. L'avenir dira si ça suffit pour devenir un soleil.
Merci beaucoup à vous, Hubert Huertas. Les prochains rendez-vous, ce sera demain, mais devant les militants socialistes, cette fois, c'est de Clermont-Ferrand, le premier